Bonjour à tous et bonjour à toutes, merci d'être avec nous. Retour un peu vers l'histoire aujourd'hui, le 3 octobre 1980. Un soir de Shabbat, une bombe explose devant la synagogue de Copernic à Paris. Bilan, 4 tués et une dizaine d'autres blessés. 43 ans plus tard, le terroriste a été arrêté. Il s'appelle de Hassan Diab. Il est franco-canadien. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité en 2023. C'est donc tout récent. Bonjour Clément Veyrénal.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un livre sur cet attentat. Ça s'appelle Rue Copernic, l'enquête sabotée 1980-2023 aux éditions de l'Artilleur. C'est un livre qui est lui aussi tout récent suite à l'annonce du procès qui s'est tenu en mars 2023.
Oui, oui. Et j'apporte tout de suite une précision à ce qui vient d'être dit. Vous dites qu'il a été arrêté. Mais si moi je parle d'enquête sabotée, c'est que M. Hassan Diab, après avoir été extradé du Canada où il vivait, et après être arrivé en France, où il a été emprisonné en 2014, Hassan Diab a été, d'une manière difficilement compréhensible, a été libéré par la justice française, a obtenu un non-lieu très surprenant, pour ne pas dire abracadabrantesque, a obtenu un non-lieu en 2018, et il a pu sortir de prison et regagner le Canada. Alors après, il y a eu des méandres judiciaires. Le parquet, bien sûr, lui-même s'est arraché les cheveux ce jour-là, a fait appel du non-lieu, mais ça n'était pas suspensif. Je vous passe les détails de la procédure. Ouais. Donc, M. Hassan Diab, en janvier 2018, a pu regagner le Canada, comme je vous le dis. Il est sorti le jour même de prison. Et alors après, l'appel du parquet est arrivé devant la cour d'appel, qui a annulé le non-lieu des juges. Voilà comme ça, voilà pourquoi, au mois de mars dernier, c'est tenu jusqu'au mois d'avril, c'est tenu pendant 3 semaines devant la cour d'assises spéciale de Paris, le procès de l'auteur présumé, ce qu'il était à l'ouverture du procès, le procès de l'auteur présumé de l'attentat de la rue Copernic, mais le procès s'est tenu devant un box vide, parce que M. Hassan Diab est parfaitement libre de ses mouvements encore aujourd'hui. Alors, je vous parle, il est libre au Canada, il n'est pas arrêté. Aujourd'hui, on ne parle plus d'auteur présumé puisque c'est une vérité judiciaire. Il a été condamné, il a été condamné à la peine maximale, à la réclusion criminelle à perpétuité. Je connais bien le dossier pour avoir enquêté de nombreuses années afin d'écrire ce livre. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas la moindre incertitude sur sa culpabilité. Comme je viens de vous le dire, il a eu la peine maximum et l'arrêt de la cour d'appel, de la cour d'assises spéciale de Paris est extrêmement motivé. Sa culpabilité ne fait aucun doute. Ah. C'est bien lui, il était l'un des membres du commando et c'est bien lui le poseur de bombe, l'homme qui a posé la bombe sur le trottoir de la rue Copernic le 3 octobre 1980.
Alors Clément Veyrénal, on va un peu parler de votre livre. Dans le début de votre livre, vous racontez donc cet attentat et vous dites que finalement au début, les hommes politiques et les intellectuels ont tout de suite pensé à une piste de l'extrême droite et que plus tard les enquêteurs on découvre que c'était le FLP. On a l'impression dans votre livre que vous dites que ça a été vraiment encouragé. On a voulu, disons, cacher que c'était les Palestiniens qui avaient commis cet attentat pendant un long laps de temps.
Oui, alors il faut bien sûr ne pas tomber dans des explications trop systématiques et se garder de tout complotisme. Mais c'est vrai, c'est ce que je raconte, parce que j'ai fait un peu œuvre d'historien, entre guillemets, c'est que l'affaire de la rue Copernic, de l'attentat de la rue Copernic, est marquée dès le début par le sceau de la manipulation de l'opinion publique, ou de l'auto-manipulation. Il y a toute une collectivité, toute une société, la société française, qui s'est, auto-manipulée. Un certain nombre d'éléments militants l'ont un peu aidé, bien entendu. Dès le premier soir de l'attentat, il y a une sorte de mot d'ordre qui est lancé comme ça, puis une rumeur qui va se, une sorte de vent de folie qui va se répandre sur la société française, on va dire, sans l'ombre de la moindre preuve, on va dire, ce serait un mystérieux groupuscule néo-nazi qui aurait commis cet attentat. Mais ça va aller beaucoup plus loin. Il ne s'agit pas juste d'une surenchère de presse, comme ça arrive souvent dans les premières heures, qui suivent un événement parce qu'on manque en fait d'éléments. Mmh. Donc dans les jours, les semaines, les mois qui vont venir, il va y avoir une sorte de oui, je n'hésite pas à parler de vent de folie collective sur la société française, où on va expliquer que non seulement ce sont des nazis qui ont commis l'attentat, mais que ces nazis représentent un danger pour la France, pour les institutions. Certains vont jusqu'à dire qu'il y a des nazis dans l'entourage du président de la République de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing. D'autres vont affirmer que la police française elle-même est infiltrée par les nazis et que c'est comme pour ça d'ailleurs qu'elle aurait laissé se perpétrer l'attentat. Donc déjà, il va y avoir cette fausse piste d'un attentat commis par les nazis qui va être entretenue, alors que la brigade criminelle et les services antiterroristes qui enquêtent dès le soir de l'attentat vont avoir, dès les premières heures, dès les premiers jours, vont avoir la conviction, au vu des indices qu'ils vont recueillir, que c'est bien un groupe palestinien, un groupe terroriste palestinien qui a commis l'attentat. Donc voilà, déjà c'est marqué par la manipulation. Et on va retrouver effectivement cette mauvaise conscience, cette manipulation tout au long de l'enquête. Attention, hein, je ne suis pas en train de dire que certains magistrats et certains policiers n'ont pas fait bien leur travail. Au contraire, il faut leur rendre hommage. Mmh. Il y a eu effectivement d'un côté des magistrats et des policiers qui, durant plusieurs décennies, vont accumuler des indices, des témoignages, des preuves pour retrouver effectivement le poseur réel de bombe, M. Hassan Diab, qui est au Canada. Mais en même temps, vous avez effectivement un certain nombre de relais dans l'opinion publique, dans les partis politiques, dans les ONG, comme on dit aujourd'hui, qui vont tout faire effectivement pour distraire et l'enquête et aussi l'opinion publique de cette piste palestinienne. Et c'est un peu...
Ça a dérangé l'État ?
Pardon ?
Ça a dérangé le gouvernement, l'État français ?
Non, seulement l'État. Je pense que ça dérangeait aussi un certain nombre de courants d'opinion très présents dans la société française. Mmh. C'est l'une des thèses que je défends. Le livre est d'abord un livre de révélation parce que j'ai eu accès au dossier. Et il y a un certain nombre de choses qu'on ne connaissait pas, qui sont fondamentales à connaître si on veut bien comprendre ce qui s'est réellement passé dans l'attentat de la rue Copernic. La thèse que je défends aussi, parce que j'apporte un certain nombre d'éléments de réflexion, c'est que pour des raisons en partie obscures, mais aussi en partie parfaitement compréhensibles, il faut bien comprendre que depuis des décennies, le terrorisme palestinien en France constitue d'une certaine manière l'angle mort de la lutte antiterroriste. C'est-à-dire qu'on lutte contre Daesh, on lutte contre les islamistes, contre les djihadistes. On a été depuis, la France a été confrontée à des vagues d'attentats terroristes d'inspiration algérienne. Mais en ce qui concerne la cause palestinienne et donc le terrorisme palestinien, on dit « Ah non, là il y a une exception ». C'est pas pareil, et un certain nombre de personnes, effectivement, de responsables politiques, de responsables médiatiques aussi, considèrent que dès qu'il s'agit du terrorisme palestinien, alors là, il faut faire preuve soit d'indulgence, soit de complaisance, et aussi de cécité. La cécité étant effectivement la sœur jumelle de la complaisance. Et le livre va un peu plus loin, d'ailleurs, que l'affaire d'Arnaud Copernic, parce que l'affaire Hassan Diab n'est pas un cas isolé. On s'aperçoit effectivement que depuis 40 ans, voire depuis presque un demi-siècle, eh bien effectivement, le terrorisme palestinien a bénéficié, si je puis m'exprimer ainsi, d'un traitement de faveur. Hein. Je rappelle à vos auditeurs, je pense que certains s'en souviennent encore, l'affaire Abu Daoud, l'homme, le cerveau des attentats de Munich, 11 athlètes palestiniens massacrés, qui a été interpellé sur le sol français très vite. Ah ben tiens, exactement comme M. Hassan Diab, on a fait en sorte qu'il reparte très rapidement, qu'il quitte le territoire français par le premier avion. Il a pris l'avion pour Alger, où il a été reçu comme un héros. Et puis quelques années après, il y a également l'affaire, rappelez-vous, Georges Abbas, fondateur du FPLP, qui a commis de nombreux attentats, pas seulement en Israël, mais également dans les années 70 et 80, de très nombreux attentats sur le sol européen qui se sont soldés par des dizaines de morts et des centaines de blessés.
Georges Abbas qui s'est fait soigner en France.
Du FPLP, rappelez-vous qu'en 1993, il se retrouve, il vient en France pour se faire soigner et que le scandale éclate. Eh bien, à ce moment-là, de la même manière, on lui fait comprendre qu'il vaut mieux qu'il reparte très rapidement, qu'il quitte le sol français avant que des magistrats s'intéressent à son pédigré et à son dossier judiciaire, et il s'en va par le premier avion. Alors, c'est un peu à travers l'affaire de la rue Copernic, on découvre, quand on commence à dérouler toute la pelote, on s'aperçoit effectivement, en tout cas, il est légitime de poser la question de savoir si le terrorisme palestinien en France, tant d'un point de vue judiciaire que d'un point de vue politique et que d'un point de vue médiatique, ne bénéficie pas d'un traitement particulier.
Alors, on a quand même l'impression, en lisant votre livre, qu'il y a eu un gros moment, on va dire, où ce dossier est endormi. Il a fallu l'arrivée du juge Marc Trévidic pour relancer un peu cette affaire. Tout ce laps de temps, on a fait quoi ?
Non, alors il ne faut pas jeter la pierre aux premiers magistrats et aux premiers policiers qui ont mené l'enquête, ouais. Parce que je vous rappelle que l'affaire de la rue Copernic, c'est une affaire, le temps passe vite, qui date du siècle dernier.
Oui.
C'était il y a 40 ans, 1980. Oui. À l'époque, il n'y a pas le triptyque un peu automatique que tous les enquêteurs connaissent et qui permet souvent d'élucider assez rapidement les affaires. Ce triptyque que l'on connaît aujourd'hui, pour résumer, qui est la téléphonie, l'ADN, les caméras de surveillance, qui fait que très vite, on sait qui était là, on identifie les personnes. Donc l'enquête de la rue Copernic va être lente, un peu comme dans un roman, je songe à Monte Cristo, il y a plusieurs époques. On commence à identifier le poseur, à avoir des traces du poseur de bombes, on connaît la fausse identité sous laquelle il voyageait en Europe, on retrouve son passeport, et puis des années plus tard, on a un renseignement qui vient de Beyrouth, on apprend sa véritable identité, et puis des années après, on le localise, on voit qu'il est passé par les États-Unis, et on le retrouve, comme dans un thriller, comme dans un roman, parce que l'affaire, l'enquête est en elle-même exceptionnelle. Ce militant du FPLP, il avait 20 ans à Beyrouth et il appartenait au groupe terroriste. Eh bien, il a changé, quand on le retrouve 30 ans plus tard, il a changé de vie, il est devenu canadien et il est devenu un honorable professeur de sociologie à l'Université d'Ottawa.
Alors, il y a une grande question qui se pose tout au long de l'enquête et vous l'expliquez dans votre livre, je le rappelle, qui s'appelle « Rue Copernic, l'enquête sabotée » aux éditions de l'Artilleur. C'est une question de sa photo. On n'a pas de vraie photo de Hassan Diab. On a des vieux clichés et apparemment c'est sur cet aspect-là qu'on a beaucoup discuté pendant le procès.
Si je puis me permettre... D'objecter, ça c'est ce que la défense a soutenu. La défense a soutenu qu'on s'acharnerait sur un innocent, sur un universitaire canadien pour la seule raison qu'il serait d'origine libanaise. Et alors ils ont essayé de faire croire que aux gens qui ne connaissaient pas le dossier ou aux journalistes les moins rigoureux, ils ont essayé de faire croire que l'accusation ne reposait que sur de vagues ressemblances entre un portrait robot et les photos d'Hassan Diab de l'époque. Ou sur de très contestables expertises d'écriture. Je peux vous garantir, et j'invite vos auditeurs à lire mon livre, que le dossier Copernic est extrêmement bien bâti, extrêmement bien ficelé. Comme je vous le disais, plusieurs générations de policiers et de magistrats se sont succédés, et chacun, effectivement, a le mérite d'avoir apporté une pièce du puzzle, un élément, une pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, où nous vous parlons, ce n'est pas par hasard si M. Hassan Diab a été condamné par la Cour d'assises spéciale de Paris, composée uniquement de magistrats professionnels spécialisés dans l'antiterrorisme. Ce n'est pas par hasard qu'il a été condamné à la peine maximale et que l'arrêt de condamnation est extrêmement motivé. Là où on peut parler d'enquête sabotée, c'est qu'en 2014, M. Hassan Diab est extradé. Donc là, on peut penser que on rentre dans la dernière ligne droite, dans la phase finale qui va amener jusqu'à son procès. Or, en 2018, alors qu'il est déjà depuis 3 ans en prison, de nouveaux magistrats arrivent dans le dossier, de nouveaux magistrats instructeurs. Et j'invite vos éditeurs à découvrir, effectivement, à lire le livre pour en avoir tous les détails. Ces magistrats accordent un non-lieu à M. Hassan Diab d'une manière totalement invraisemblable. Ils se basent sur des témoignages que je n'hésite pas à qualifier d'extrêmement légers, fantaisistes, contradictoires.
Pendant l'instruction...
Ce ne sont pas des affirmations gratuites de ma part, puisque précisément, leur non-lieu a finalement été annulé par la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris.
Alors, ce qui est intéressant,
on s'est retrouvé au mois de mars dernier avec un procès devant la Cour d'assises de Paris, mais seulement devant un box vide. L'oiseau, si je puis dire, s'est envolé. Et aujourd'hui, on est dans une situation un peu inextricable parce que M. Hassan Diab est condamné par la justice française, mais pour des raisons de procédure, il a déjà été extradé une fois. On n'obtient pas une réextradition comme ça de manière aussi simple. Et aujourd'hui, M. Hassan Diab, qui a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir tué 4 personnes à Paris lors d'un attentat terroriste, est libre de ses mouvements. Il est libre comme l'air au Canada, où il bénéficie d'un certain nombre de soutiens dans des organisations que je n'ai pas peur de qualifier d'extrême gauche, pro-palestinienne, qui le présente comme une sorte de Dreyfus canadien, ce qu'il n'est pas. Et voilà pourquoi on est dans une situation inextricable que je me suis permis de qualifier d'enquête sabotée.
Alors, il y a quelque chose qui est assez bien dans votre livre, c'est que finalement, les deux derniers magistrats qui ont donné le non-lieu, vous le dites avant qu'ils énoncent ce non-lieu, qu'eux, ils étaient convaincus de la culpabilité de Hassan Diab. C'est-à-dire qu'il y a eu un retournement de situation un peu invraisemblable.
Oui, c'est donc vos auditeurs pourront se reporter au détail de ce qui est très clairement exposé. Ça n'est pas seulement une divergence d'appréciation. Quand on lit les procès-verbaux de l'instruction, on se rend compte que l'attitude de ces magistrats est d'autant plus incompréhensible que eux-mêmes, c'est à la lecture des PV, on le voit, quand ils dialoguent avec l'accusé, quand ils dialoguent avec les témoins, on voit qu'ils semblent convaincus de sa culpabilité, ou en tout cas qu'ils ne sont pas convaincus par les témoignages en faveur de M. Hassan Diab. Ils parlent eux-mêmes de témoignages concertés, ils disent qu'ils soulignent les mensonges, les invraisemblances, les contradictions des témoins produits par la défense. Et puis, brusquement, sans qu'on comprenne pourquoi, du jour au lendemain, ils disent « Ah bien, eh bien si, finalement, il est peut-être innocent. » Et quand on regarde leur motivation, quand on lit attentivement leur ordonnance de non-lieu, eh bien, on retrouve justement les stigmates de cette idéologie à laquelle je faisais référence tout à l'heure, de cette idéologie complaisante vis-à-vis du terrorisme palestinien. Leur démonstration sur l'innocence de M. Hassan Diab est tellement bancale, tellement fragile, qu'ils sont un peu obligés de rajouter des éléments qui, moi personnellement, m'ont fait dresser les cheveux sur la tête, des éléments anti-israéliens. On tombe dans une forme de complotisme, les juges, par exemple, il y a un passage très clair de l'ordonnance de non-lieu, où les juges envisagent de manière plus ou moins explicite que derrière cette l'attentat de la rue Copernic et derrière les poursuites contre M. Hassan Diab, il y aurait en fait une sorte de manipulation, voire de complot des services secrets israéliens. Ils en sont à écrire ça. Ils accordent également un certain crédit, c'est eux qui écrivent le mot crédit, un certain crédit moral aux actions du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, qui, comme chacun sait, est un groupe terroriste qui ne bénéficie, à mon sens, d'aucun crédit. Je n'ai jamais entendu parler de moindre action positive du FPLP, qui a commis des dizaines d'attentats sur le sol européen, qui a suscité la mort de nombreux civils européens, et qui est encore aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, sur la liste officielle des organisations terroristes de l'Union européenne. Voilà pourquoi cette arène de non-lieu rendue par les magistrats en 2018, qui a permis la libération d'Hassan Diab, est, je le répète, totalement incompréhensible. Et c'est un peu la thèse que j'expose dans mon livre. J'ai eu accès à un certain nombre de pièces essentielles du dossier que j'expose à la vue des lecteurs, qui pourront se faire une opinion sur l'ampleur du scandale. Alors, c'est un scandale à la fois judiciaire et politique.
Un mot, Clément Vernal, parce que le temps passe très vite et on rappelle que toute cette affaire est expliquée et détaillée dans votre livre qui s'appelle « Rue Copernic, l'enquête sabotée », Clément Vernal, aux éditions de l'Artilleur. Il a été condamné, il n'était pas présent. On a vu, vous l'avez dit, des organisations de gauche qui le soutiennent au Canada. On a vu dernièrement une déclaration de Justin Trudeau, Premier ministre canadien, qui souhaitait ne pas avoir extradé Hassan Diab. C'est quoi la suite maintenant? À quoi on peut s'attendre?
Alors maintenant, il y a deux possibilités. Soit il va finir par être extradé, mais alors dans quel délai? Est-ce que ça va se compter en semaines, en mois ou en années? Parce que le Canada est quand même un état de droit, donc peut-être qu'un certain nombre de magistrats seront utilement éclairés, utilement conseillés, et vont dire non, effectivement, même s'il y a eu des atermoiements de la justice française et même un certain cafouillage qui ont permis la libération d'Hassan Diab, le dossier est solide. Donc maintenant, dès lors qu'il est condamné, il faut l'extrader. Ce serait le scénario optimiste, de notre point de vue. C'est-à-dire qu'il serait mis dans un avion, il arriverait en France, où il aurait la possibilité de faire appel du premier jugement. Il y aurait donc un deuxième procès, mais cette fois en sa présence, et on pourrait en avoir le cœur net pour ceux qui doutent encore de sa culpabilité, mais aussi... L'autre scénario auquel on peut s'attendre, en tout cas c'est la situation dans laquelle on est actuellement, eh bien, c'est que M. Hassan Diab reste au Canada, que sous divers prétextes ou divers arguments judiciaires, les autorités canadiennes disent non, pour nous le jugement n'est pas acceptable, il a mal été jugé, il n'a pas bénéficié des garanties qu'il aurait pu avoir. Je vous dis, il bénéficie du soutien d'organisations telles Amnesty International, dont on connaît la dérive pro-islamiste et anti-israélienne. Il bénéficie du soutien d'universitaires canadiens, de certains journaux. Et effectivement, on peut s'attendre à ce que, au moins pendant un certain laps de temps, qui risque de devenir long, M. Hassan Diab reste au Canada en liberté, ne purge pas sa peine de prison. Je rappelle qu'il va avoir 70 ans en novembre prochain. Donc, c'est un ancien terroriste.
Il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé par Interpol.
Oui, il y a un mandat d'arrêt d'extradition. Il y a un mandat d'extradition. Mais mettez-vous à la place des Canadiens. Les Canadiens auront beau jeu de nous dire « Mais on vous l'avait déjà extradé, et puis vous l'avez gardé 3 ans en prison, et puis vous le renvoyez sans vraiment fermer le dossier. Et puis après, 3 ans après, vous dites « Ah ben non, finalement, on veut encore le rejuger. » Donc, les Canadiens, vous savez, les extraditions, on le voit aussi en France. Rappelez-vous les affaires type Battisti ou autres avec d'anciens terroristes italiens. C'est aussi, l'extradition, c'est aussi du ressort du politique. C'est une décision des dirigeants, des dirigeants politiques. Et actuellement... moi, je surveille en lisant la presse, via Internet, la presse canadienne tous les jours. Eh bien, il n'est pas sûr du tout que le gouvernement de M. Justin Trudeau, qui aura, au final, c'est lui qui aura la dernière décision pour savoir si on extrade ou pas M. Hassan Diab, il n'est pas sûr du tout que le gouvernement Trudeau accepte l'extradition de M. Hassan Diab. Il va peut-être se ranger du côté de ses soutiens, qu'il le présente comme, comme victime d'une erreur judiciaire et d'une machination kafkaïenne.
Dernier mot, vous étiez au procès Clément Vérinal. Comment ont réagi les blessés et les personnes qui ont été victimes de cet attentat? Ils sont assez contents du jugement, ils ont trouvé que ça a duré longtemps?
Je vous dis, le fait que ça ait duré longtemps, c'est aussi c'est dû au fait que c'était une enquête difficile et, de mon point de vue, exceptionnelle. Écoutez, les parties civiles et leurs avocats sont bien entendu satisfaits déjà d'avoir obtenu la reconnaissance de la culpabilité de Hassan Diab, sa condamnation à la peine maximale. On a senti que du côté du parquet et du côté des magistrats de la Cour d'assises spéciale, il y avait une lucidité sur la réalité du dossier, qui n'a pas eu la moindre faiblesse. Mais maintenant, comme je viens de vous l'expliquer pendant de longues minutes, on est un peu au milieu du gué. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr, pour l'instant, on peut craindre que cette décision de justice ne soit jamais appliquée. Donc la justice ne passe pas vraiment, qu'on s'en tienne à une condamnation symbolique. Et comme je vous l'ai expliqué, ça n'est pas juste dû à je ne sais quelle difficulté procédurale ou à la malchance, c'est dû à une sorte de sabotage judiciaire qui fait que pour des raisons idéologique, politique, pas toujours clairement exprimé, des raisons parfois obscures, eh bien, des magistrats ont laissé partir un monsieur qui aujourd'hui est considéré comme, et c'est une vérité judiciaire, est considéré comme un terroriste et comme le véritable auteur de l'attentat de la rue Copernic il y a 43 ans.
Alors pour tout savoir sur cette affaire, on vous conseille très vivement le livre de Clément Vérénal, Rue Copernic, l'enquête sabotée 1980-2023 aux éditions de l'Artilleur. Clément Vérénal, je vous remercie d'avoir été notre invité et je vous dis à bientôt.
C'est moi qui vous remercie, à bientôt.
Au revoir.